où Jésus parle d'un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, et elle n'est point tombée, et d'un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi ? Sur le sable, et qu'est-ce qui est arrivé à la maison ? Sa ruine a été grande, dit la parole. Alors, prudent ou insensé ? Prudent. Car oui, hein, l'écoute et la mise en pratique de la parole de Christ est bien le fondement prudent pour nous de notre nouvelle vie avec lui, non ? Ce n'est pas une option, hein ? Car toute notre vie en dépend. C'est pourquoi Jésus nous invite toujours à être très attentifs à la mise en pratique de sa parole. Car c'est ainsi que nous pouvons aussi manifester notre amour pour lui. Amen. Car il dit, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Si quelqu'un m'aime, Jésus, il mettra en pratique ce que j'ai dit. C'est Jean 14, 23, 24. Alors, parmi les paroles que Jésus nous a données comme fondement incontournable, il y a une de ses premières exhortations, que l'on pourrait appeler aussi son premier commandement, juste quand il commença à prêcher, après son séjour dans le désert. Vous voyez de quoi il s'agit ? C'était, pour vous aider un peu, aussi l'enseignement qu'a été celui de Jean-Baptiste pour préparer le chemin de Jésus. Qu'est-ce que répétait Jean-Baptiste ? Il le répétait, il l'a répété. Donc, Matthieu 4, 17 dit, effectivement, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous », c'est le premier texte, les autres on les verra après. Donc, Matthieu 4, 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il s'agit donc de la repentance, cette première exhortation de Jésus après avoir passé ses 40 jours dans le désert. C'est donc ce que nous allons partager ce matin et approfondir un peu ensemble. Alors certains vont peut-être me dire ou penser, la repentance, mais ça on connaît Gérard, on connaît, non ? C'est déjà fait pour nous. On est déjà passé par là. Alors pourquoi y revenir ? Hein ? C'est ce que je pensais, moi, aussi, un peu comme vous. Je pensais aussi bien connaître la repentance, ce dont il s'agit, lorsque ce sujet m'est venu à l'esprit. Car je suis également passé par là. Et je me suis alors demandé si je devais poursuivre ce sujet. Car durant toute la préparation de ce message, on résonnait en moi ces deux paroles, « Parle, c'est ce que je te demande, et ne parle pas, ils savent déjà. » Mais « Parle » l'a emporté sur l'autre. Car il y a quelque chose qui m'a interpellé, voire surpris, même un peu bouleversé, en lisant au cours de ces derniers mois plusieurs textes de grandes figures du réveil dans le monde, étant intervenus dans des milliers d'églises, ayant vu comment vivaient des dizaines de milliers de chrétiens. Et je vais vous lire ces textes. D'abord celui de Fred Frederick Bosworth, évangéliste, ayant eu un très grand et puissant ministère de guérison, et qui écrit, je cite, ceux qui sont passés par le baptême, ont-ils tous eu leurs péchés effacés? Il répond non. Seuls ceux d'entre eux qui avaient la foi en Jésus ont eu leurs péchés effacés. Des milliers de personnes sont passées par les eaux du baptême sans être sauvées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties de leurs péchés. Car elles ne s'étaient pas repenties de leurs péchés. Le point de départ. Étonnant, non ? C'est pas n'importe qui dit ça. Un peu plus tard, dans mes lectures, en lisant une autre publication de Catherine Booth, certains peut-être connaissent ce nom, cofondatrice avec William Booth de l'Armée du Salut. C'est donc quelqu'un de très solide dans la foi et qui sait de quoi elle parle. Elle écrit, je cite, « Il n'y a pas de faute plus grave et plus commune que des gens qui croient être dans la vraie repentance et qui ne le sont pas. » Et elle poursuit, « Si la repentance est une condition indispensable pour le salut, essayons de voir ce qu'est la véritable repentance. » Et elle poursuit, « Hélas ! Combien y a-t-il de confusion dans le monde et dans l'Église au sujet de la repentance ?» Et elle dit, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, « Je suis effrayé, c'est son mot, de voir que nous avons dans nos Églises des milliers de repentances contrefaites. » Même constat que Bosworth. Et je vais terminer par ces citations de Dwight Moody. Moody, c'est un nom que beaucoup connaissent aussi. Un des grands évangélistes connus, il écrit, et je cite, « La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. C'est la première chose dont Jésus a parlé. C'est la première chose à laquelle nous a exhorté. » Donc si Jésus a commencé par dire « Repentez-vous », c'est parce que ça avait un sens. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. Mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Les définitions qu'on en donne généralement sont bien étranges et bien erronées. C'est lui qui parle. Bon, ce n'est peut-être pas le cas ici au Colombier. Ce qui n'exclut pas quand même d'essayer de mieux comprendre ce qu'est la véritable repentance. Car il en va, comme nous venons de l'entendre, il en va de notre salut au cas où nous serions passés par méconnaissance ou par ignorance à côté de quelque chose d'important. Vous êtes d'accord? Je continue? Oui, non? Oui, ok, moi j'y vais. Sinon, je m'arrête, sinon. Alors, pour ma part, quand Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées », je reconnais bien volontiers que je l'ai été en préparant ce message. Alors je vais essayer d'être un bon canal de ce que j'ai reçu et compris. On a donc vu tout à l'heure que le premier enseignement de Jésus, au tout début de son ministère terrestre, c'était de se repentir. Et voici encore quelques-unes de ses paroles à ce sujet. Donc dans affiché Marc 1:15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Changez d'attitude, dit la version seconde 1, et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Puis dans Luc 24, 46, 47, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. La repentance d'abord, donc on le voit là, puis le pardon des péchés qui ouvre le chemin du salut. Alors que firent les apôtres quand Jésus les envoya? Eh bien tout naturellement, Marc 6, 12 dit, ils partirent et prêchèrent la repentance. Tout naturellement, normal. Ils avaient entendu ça de la part de Jésus. Et Pierre, lui, qui n'avait rien oublié de tout cela, lorsqu'il commença à prêcher, après la Pentecôte, dit à la foule, dans Actes 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et Paul, dans Actes 20, 21, annonçant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils étaient tous vraiment branchés sur cette repentance à laquelle ils avaient été appelés et que Jésus leur avait dit, allez-y, enseignez la repentance. Il y a encore bien d'autres versets sur la repentance. Mais on voit, là encore, que pour les apôtres, la repentance, accompagnée ici du baptême, dans Actes 2, 29, 38, est incontournable et qu'elle conduit au don du Saint-Esprit. Encourageant, non ? À quoi ça conduit ? Au don du Saint-Esprit. Alors, la véritable repentance, c'est quoi ? Si on traduit le terme grec utilisé, métanoïa, c'est changer de mentalité. Autrement dit, changer d'avis, d'attitude. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Changer d'attitude et d'avis par rapport à quoi ? Comment ? À notre ancienne vie, oui. Notre ancienne vie de péché. Donc c'est changer par rapport au péché. Et bien entendu, par rapport à l'auteur de notre salut, Jésus et l'œuvre de la croix. C'est changer d'avis par rapport au péché. Et tout commence par quoi ? La Bible dit aussi ça. Pour changer d'avis par rapport au péché, il faut déjà être convaincu du péché. Non ? Donc ça commence par une profonde conviction de péché. Non ? Issue de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de quoi ? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'elle soit lue, entendue ou révélée. Conviction provoquée par qui ? Par le Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Il nous convainc donc de la gravité de nos péchés et de notre état de perdition. La repentance, donc si on résume, c'est donc une profonde tristesse et douleur, vraiment profonde tristesse et douleur, d'avoir offensé Dieu et de la souillure que représente à ses yeux le péché. C'est une haine du péché qu'on va avoir. Et la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution que Jésus, la seule porte et le seul chemin pour nous sortir de cette situation. C'est cela la repentance. Vous savez, le jour de la Pentecôte, lorsque les gens entendirent la prédication de Pierre, il est écrit dans Acte 2, 37, version parole vivante, ils reçurent ces paroles en plein cœur et furent profondément bouleversés. Vous imaginez ? Ils reçurent ces paroles, boum, en plein cœur et furent profondément bouleversés, bouleversés en profondeur. Elles sont fortes, ces paroles. Non ? Un bouleversement, comme un séisme. Avons-nous été bouleversés en profondeur lorsque nous avons appris notre état de perdition à cause du péché ? Ce fut leur cas. Alors, ils crurent dans le message annoncé par Pierre et changèrent d'attitude. Ils se convertirent. Tellement bouleversés, ils décidèrent de tourner le dos à leur vie de péché. Ils marchaient dans ce sens, ils tournèrent le dos et le péché derrière, la lumière du Christ en face. Ils tournèrent le dos à leur vie de perdition. Et en se tournant totalement vers Jésus, le Sauveur annoncé par Pierre, ensuite persévérant dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient été tellement touchés que, eh bien, la seule solution pour eux, c'était de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ce bouleversement en profondeur, ben, c'est ce qui se produit, c'est ce que produit la vraie repentance. C'est ce qui s'est produit pour eux. Ce n'est pas seulement un regret ou un remords ou la reconnaissance même profonde de notre péché, ni même une simple demande de pardon, mais c'est tourner totalement et irrémédiablement le dos au péché. C'est renoncer à notre ancienne vie ou notre ancienne manière de vivre. C'est marcher pleinement dans le sens opposé. Et tourner le dos, c'est tourner le dos, hein. La vraie repentance, c'est tourner le dos. Quand on tourne le dos, qu'on passe de là à là, on fait une rotation de combien? 180 degrés. Pour ceux qui aiment bien un peu les mathématiques. C'est pas à moitié. C'est totalement abandonner ce que Dieu réprouve dans nos vies. Pas presque. C'est pas presque abandonner. Hein. Tourner le dos, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est ça. C'est le désir de tout changer, pas presque. Et surtout, le vouloir et le décider, pas presque. C'est la seule façon de répondre favorablement à celui qui nous a convaincus de péché, le Saint-Esprit. Croyons-nous vraiment cela? Croyons-nous vraiment cela? Vous savez, la notion de presque ou d'à peu près n'existe pas dans le langage de Dieu. Alors prenons quelques exemples pour illustrer cela et notamment comprendre ce que Catherine Booth veut dire quand elle parle de contrefaçon. Mais au fait, qu'est-ce qu'une contrefaçon? On sait, hein, non? Un sac qui ressemble à un autre. Une imitation? Une imitation, bien sûr. Hein. C'est faire passer du faux pour du vrai. C'est bien ça, une contrefaçon. Et en l'occurrence, dans notre cas, bah, c'est donner, se donner à nous-mêmes ou aux autres l'illusion qu'on a changé. Alors que ce n'est pas le cas. Mais si on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Bon, je partirai de quelques exemples de la Bible, de ce que Dieu réprouve. Ils sont très nombreux. Encore. On peut les lire donc dans de nombreux versets, de nombreux livres. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Je n'en donnerai ici que quelques exemples pris dans la parole vivante. Pierre dit dans 1 Pierre 2:1: débarrassez-vous de toute forme de mal. C'est clair, hein? Et il cite fraude, dissimulation, demi-vérité, bavardage malveillant, médisance, calomnie. Il les cite, hein? Paul dit dans Éphésiens 24-29, habillez-vous de neuf, mettez les vêtements de votre vie nouvelle. Et il dit, défaites-vous d'eux, et il cite, mensonge, colère, propos méchants, rancune, injures, remarques blessantes, etc. Et il poursuit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Puis dans Galates 5, 19-21, il dit aussi, on sait bien tout ce que produit la vieille nature. Et il cite, occultisme, c'est pas écrit là, occultisme, astrologie, horoscope, querelle, jalousie, intrigue, rivalité, fausse doctrine, ivrognerie, etc. Et il termine en disant, celui qui commet de telles choses n'a aucune part à l'héritage de Dieu. C'est très fort cette parole, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? Et ce qui se passait à l'époque, aujourd'hui, n'est-ce pas la même chose? N'avons-nous pas besoin des mêmes mises en garde? L'homme n'a pas changé, malgré que tout l'environnement de l'homme ait changé, tout son environnement technique, social et compagnie. Mais l'homme, le cœur de l'homme n'a pas changé. Mais ça inclut aussi, j'oubliais, le non-pardon dont Jésus dit dans son sermon sur la montagne, dont nous avons parlé voilà un mois, Matthieu 6, 15, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Quand je lis ça, je suis quand même, moi, toujours émerveillé, vous allez me dire, mais il est un peu foufou, Gérard. Émerveillé devant ce que j'entends. Émerveillé par quoi? Par la précision de la parole de Dieu et de l'amour qu'il nous manifeste en cela, en nous disant tout, il ne nous cache rien. Dans quel but? Afin de nous réconcilier avec lui au travers de Jésus. Alors, convertis ou non, baptisés d'eau ou non, nous reconnaissons-nous dans une ou plusieurs de ces situations décrites? Si oui, une seule solution, la 36, la vraie repentance. Quand je reconnais ma situation réprouvée par Dieu, que je prends conscience à quel point elle me sépare de lui, puis que je la confesse humblement, que je m'en repens véritablement, et décide d'y renoncer, de l'abandonner avec détermination, en lui tournant le dos à 100%, alors seulement, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, au moment de cette véritable repentance, Dieu pardonne. Et le Saint-Esprit se met en marche avec nous pour mener à bien notre résolution, soutenue en cela aussi par la prière de l'Église. L'Église a une importance dans cette démarche. Alors où en sommes-nous ? Vraie repentance ou contrefaçon? Car c'est par la vraie repentance et seulement ainsi que l'on manifeste notre amour pour Dieu et notre foi totale pas partielle, mais totale, en ce que Jésus a enduré et souffert à la croix, pour nous arracher, vous entendez bien, nous arracher à la domination du péché. Car ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus, par ses souffrances, nous a arrachés à la domination du péché. Alors rester, même partiellement, volontairement, dans un péché connu, malgré notre repentance, sans avoir décidé d'y renoncer totalement, ce serait une repentance contrefaite. Et ce serait aussi prendre avec une grande légèreté tout l'amour que Dieu nous a manifesté en nous envoyant son Fils Jésus, son plus précieux trésor. Non ? Ce serait prendre avec une grande légèreté toute la souffrance que Jésus a dû endurer pour notre salut à la croix. En outre, quand je suis dans la contrefaçon et que je prends la Sainte Cène, cela aussi fait partie de ce que Paul appelle ne pas discerner le corps de Christ, avec toutes les graves conséquences qu'il décrit dans 1 Corinthiens 11, 29, 30. Dimanche dernier, avant de partager la Sainte Cène, nous avons chanté ce magnifique chant. Un chant magnifique. Moi qui me fais, parfois, ça me fait couler les larmes. C'est très émouvant. Crucifié. À propos de Jésus. Crucifié. Seul abandonné. Tu as souffert. Méprisé. Rejeté. Telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Vous imaginez ce que Jésus a fait ? Crucifié, seul abandonné, tu as souffert. Méprisé, rejeté. Telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Waouh ! Waouh ! Et nous, après cela, nous continuerions, malgré notre repentance, à pécher volontairement en restant dans ce que Dieu réprouve. Et ce pourquoi Jésus a payé si cher à la croix, nous continuerions à le fouler comme une rose. C'est un choix qui nous appartient. Mais sans vraie repentance, sachez que nous restons éloignés de Dieu. Car celui qui cache ses transgressions, Proverbe 28, 13, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Waouh ! Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si on ne refuse pas fermement le péché, on y succombera. Si on ne dit pas fortement non au péché, viendra le moment où on y dira oui. Alors certains me diront, mais c'est difficile tout ça. Waouh, c'est difficile. Ma réponse est oui. Nous en serons incapables si nous cherchons à agir par nos propres forces. Car nous sommes des êtres naturels, notre ancienne nature, elle, en est incapable. Mais n'avons-nous pas hérité d'une nouvelle nature en Christ ? Non ? Non ? Ah si ? Ne sommes-nous pas ressuscités avec lui ? Le Saint-Esprit n'habite-t-il pas en nous ? Et ne souhaite-t-il pas agir en nous ? Ne demeurons-nous pas en Christ et Christ en nous ? Je ne fais ici que reprendre quelques termes de la parole de Dieu. Nous y croyons ou pas ? Ou pas totalement? Je lisais voilà quelques semaines un texte de Bob Gass. C'est un pasteur évangéliste américain. C'est l'auteur de la parole du jour, de la pensée du jour. À propos du plan de Dieu et de sa parole, il disait que nous n'avons qu'une réponse possible au plan de Dieu et à sa parole, une réponse possible, une seule, l'obéissance. Et il disait, l'obéissance partielle, sélective ou différée reste de la désobéissance. Fin de citation. Quant à Catherine Booth, et j'y reviens, elle écrit dans le même texte, la vraie repentance est simplement, le fait de renoncer, dire non au péché, de se détourner des ténèbres pour aller dans la lumière et quitter la puissance de Satan pour aller dans celle de Dieu. Je quitte la puissance de Satan, je fais 180 degrés et je vais dans celle de Dieu. La soumission à Dieu, écoutez bien, est le test de la vraie repentance. Et soumission égale obéissance. La soumission à Dieu est le test de la vraie repentance. Suis-je soumis à Dieu? Et je rappellerai que le baptême d'eau est le premier acte d'obéissance demandé par Jésus après la conversion. Ce que Pierre n'a pas manqué de rappeler après la Pentecôte. Hein. Premier acte d'obéissance. Vous êtes repenti? Repentez-vous et soyez baptisés. Alors si nous voulons, par nous-mêmes, agir par nous-mêmes, oui, ce sera l'échec assuré. Oui. Par contre, si nous nous recommandons, donc psaume 37, 5 à 9, si nous nous recommandons totalement, ou recommandons totalement notre sort à l'Éternel, si nous mettons totalement notre confiance en lui, alors, et seulement alors, le Saint-Esprit agira. C'est ce qu'il dit. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un échange de vie. Et c'est une vie exigeante, la vie chrétienne. Il ne faut pas se leurrer. Hein. La porte est étroite. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Jésus. Et le chemin est exigeant. Hein. Au moment de la conversion, on remet notre ancienne vie à Dieu qui nous donne une nouvelle vie en Jésus, son Fils. Et plus encore même. Plus encore. Il vient habiter en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et les fruits attendus de la repentance ne peuvent donc être que ceux de l'Esprit Saint qui réside en nous. Galates 5, 22. Si le Saint-Esprit habite en moi, quel fruit va-t-il vouloir exprimer à travers moi? Son fruit et les caractéristiques de son fruit. Alors, si l'amour de Dieu auquel nous croyons, si l'amour de Dieu auquel nous croyons ne nous invite pas à abandonner nos propres voies, à s'en détourner avec détermination, c'est qu'il ne s'agit pas du véritable message de l'Évangile, ni de l'amour de Dieu qui habite en nous et qui nous anime. L'amour de Dieu auquel nous croyons doit nous inviter, nous invite à abandonner nos propres voies et à nous en détourner avec détermination. Donc soyons très vigilants. Hein. L'ennemi de nos âmes est le prince de la contrefaçon. Ouais. De l'illusion. Des solutions de facilité qui nous fait prendre pour des vérités. Comment déjouer ces pièges? Jean 8, 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre de quoi ? Du péché. C'est pas libre de faire ce qu'on veut. Souvent donc, quand certains lisent cette parole, la vérité vous rendra libre. Vous avez maintenant la liberté. Oh, je peux faire ce que je veux maintenant. Ah non. Liberté par rapport au péché. Nous ne serons plus esclaves du péché. Nous ne serons plus dominés par le péché. Nous aurons cette liberté. Moi, je terminerai juste par une citation. Et je termine. D'Eric Prince, un pasteur dont beaucoup connaissent les livres, hein, les écrits d'Eric Prince, peut-être que plusieurs les connaissent. C'est un pasteur très, très connu aussi. Il écrit. Dans de nombreux endroits aujourd'hui, à propos de l'Évangile, dans de nombreux endroits aujourd'hui, la simplification du message de l'Évangile a été trop loin. Le message que l'on prêche de nos jours est celui-ci, croyez seulement. Mais il dit, ce n'est pas celui de Christ. Lui, ses apôtres ont prêché, repentez-vous et croyez. Et il ajoute, c'est pourquoi l'expérience de nombreux chrétiens est aujourd'hui si instable et si peu solide. Ils professent la foi sans avoir expérimenté la véritable repentance. Fin de citation. Je termine là. Alors je te prie, mon Dieu, mon Père, que cette parole que tu nous as communiquée ce matin soit bien reçue dans chacun de nos cœurs et qu'elle puisse, le cas échéant, déclencher de véritables repentance, pour qu'ainsi chacun puisse vivre une véritable transformation par la parole et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis dans chacun des cœurs et que toute la gloire t'en revienne, mon Dieu. Amen.